C'est l'apprentissage de l'allemand. Ça me rend malade ce qui se passe en ce moment. J'ai signé la pétition de l'Association pour le développement de l'allemand en France, ADEAF, à destination du président de la République. J'invite tout le monde à faire pareil parce qu'on le sait, le 22 janvier 2023, on fêtera les 60 ans du traité de l'Élysée. C'est clairement marqué depuis 1963 que l'apprentissage de la langue du partenaire, on doit lui accorder une priorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Vive l'amitié franco-allemande. Frankreich und Deutschland.
Pluriel et un.
Schönste Zahl ist 98. 98, 4 mal 20 plus.
L'allemand, ça fait pas rêver, quoi.
Wir, die Franzosen und die Deutschen, mittlerweile, wir sind sowas von guten Freunden.
Der Élysée-Vertrag hat viel bewegt.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Herzlich willkommen beim EMCast,
le podcast bilingue qui traite de sujets passionnants et parfois controversés.
Wir sind Studierende und Alumni des deutsch-französischen Studiengangs Europäische Medienkultur, kurz EMK.
Und jetzt mach es dir gemütlich und genieße diese neue Folge.
C'est parti!
Pour moi, l'amitié franco-allemande est une amitié qui existe depuis toujours. D'abord, je me présente. Je m'appelle Charlotte.
Gerade bin ich im fünften Semester noch in Lyon, aber schon wieder auf dem Rückweg Richtung Weimar. Lyon, Weimar. Unser Studiengang ist unter anderem aus dem Élysée-Vertrag hervorgegangen. Dieser Vertrag ist nun 60 Jahre alt geworden. Aber ist die deutsch-französische Freundschaft wirklich so selbstverständlich, wie sie uns vielleicht manchmal erscheint? Was bedeutet es, in diesem Kontext zu arbeiten? Alina wird euch nächste Folge etwas mehr über den Traité Élysée erzählen. In dieser Folge, die bereits vor dem Jubiläum aufgenommen wurde, soll es um die deutsch-französische Freundschaft gehen.
Après avoir entendu le dernier rendez-vous des deux présidents qui s'est moins bien passé, je me suis demandé, c'est quoi l'amitié franco-allemande? C'est une histoire longue, des guerres, des économies et des échanges. Elle est plus qu'un contrat politique ou économique. Je me suis demandé, l'amitié franco-allemande est-il vraiment si évident et profane? De plus, est-elle peut-être en danger?
L'amitié franco-allemande, pour moi, c'est vraiment une histoire de... C'est presque passionnel pour moi. Je ne sais même pas d'où ça vient.
Ça, c'est Nadine Gruner. Elle, elle a fait aussi les études d'information et communication à Lyon et Weimar, mais 20 ans avant moi. Aujourd'hui, elle est la directrice de la maison Heidelberg à Montpellier.
Je suis née avant la chute du mur, du coup, et en Exerdia. Et j'ai commencé à faire le français, c'était ma deuxième langue au lycée. Et ça m'a plu, je sais pas. Ça m'a plu, c'est rapidement devenue ma matière préférée et ma meilleure matière, en fait. J'avais une prof super, parce que bon, avant, on apprenait le russe là-bas. Et c'était l'époque où, en fait, tout le monde choisissait le français en deuxième langue parce que plus personne voulait faire du russe. À l'époque, ouais, on voulait s'en détacher, tout simplement.
L'Institut Montpellier, c'est un institut qui consiste d'un jumelage entre Montpellier et Heidelberg. Depuis 1960, donc depuis presque 60 ans, l'Institut est responsable pour la région occitane.
Oui, c'est comme une petite histoire d'amour qui est née au lycée et qui m'a poursuivie. À l'époque, Internet, dans les années 90, ça commençait tout juste à venir. On avait des modems, et une très mauvaise connexion. Et pour chercher un parcours à l'université, on feuilletait un grand livre. Et je suis tombée sur le parcours franco-allemand, culture européenne, des médias, avec Weimar et Lyon. Je ne savais pas trop ce que je pouvais faire. EMK ist einfach eine geniale Zeit gewesen. Ich habe 2000 in Weimar angefangen. Also ich war der zweite oder dritte Jahrgang. Es heißt, es gab wohl schon 98 in ersten. Also wir sind auch in Sachen deutsch-französische Hochschule mit die wirklich die ersten gewesen, ne, die da überhaupt, also Weimar-Lyon ist einer von den ältesten integrierten Studiengängen. Und was eigentlich das coolste Projekt von unserem Jahrgang war, da hatte eine Gruppe, die wohnten auch in der WG im 7. Arrondissement, über einer Bäckerei, die Boulangerie du Prado. Und da haben die wie so ein Kulturzentrum draus gemacht. Da war dann Programm und die haben das, da gab es dann hinten noch diese Rührgeräte und so weiter. Und da haben wir dann Soirees gemacht und Treffen und Veranstaltungen. Und also das haben ein paar Leute aus meinem Jahrgang, haben das irgendwie sehr aktiv betrieben, die auch da drüber wohnten. Ich habe die Diplomarbeit im September 2004 angefangen. Und da brannte, und das hat sich auch bei mir im Gedächtnis also eingebrannt im wahrsten Sinne des Wortes, am 2. September 2004 ist die Herzogin Anna Amalia Bibliothek abgebrannt. Und ich wohnte damals am Marktplatz und habe da die Feuerwehrautos unter meinem Fenster vorbeifahren sehen.
Oh Gott.
Und es war super dramatisch, weil ich mich eigentlich da einrichten wollte, um zu arbeiten im Lesesaal, weil ich da einfach immer gerne
in der alten Bibliothek noch dann?
In also, der alten Bibliothek.
Da konnte man genau, arbeiten. Also.
Da konnte man noch arbeiten.
Wow.
Und ich habe auch vorher da meine Arbeit zum Leseverhalten in Weimar, also um 1800 gemacht. Und habe da die Archive einsehen müssen. Und es war, also das war so ein anderes sehr, also was einen auch als Kulturwissenschaftlerin einfach nachhaltig geprägt hat. Und damals gab es aber schon das neue Studienzentrum, also mit dem Kubus gegenüber. Und es wurden ja auch viele Bücher dann schnell in Sicherheit gerettet, also mit einer Menschenkette. Und ich habe da dann abschließend noch Führungen gemacht durch das neue Studienzentrum. Und das war, genau, das sind so meine markanten wow. Erinnerungen.
Entre la France et l'Allemagne, il existe plus de 2200 jumelages locaux.
Et aujourd'hui, je me bats tous les jours, en fait, pour maintenir cette amitié, notamment à travers la coopération culturelle, mais notamment éducative aussi. Mon grand sujet, c'est l'apprentissage de l'allemand.
Selon une étude de l'Institut franco-allemande de Ludwigsburg et de la Fondation Bertelsmann, il joue un rôle important dans les relations entre les citoyens européens. Au cœur de cette histoire entre les maisons, il y a l'échange. L'échange entre les deux maisons, l'échange entre les citoyens dans tous les différents domaines. L'échange culturel, mais aussi l'échange économique.
On est comme une petite ambassade qui œuvre pour l'entente des peuples, en fait. Donc il y a une dimension politique aussi, de politique culturelle et éducative que je poursuis. Je fais beaucoup de travail en réseau. Tout ce qu'on a appris entre Weimar et Lyon, ça m'aide beaucoup aujourd'hui en termes d'interculturalité. Mon rôle ici, c'est de trouver de nouveaux dispositifs, de nouvelles programmations afin de maintenir les liens, les contacts avec Heidelberg. Et aujourd'hui, mon rôle, voilà, parce que bon, on pourrait faire les choses dans son petit coin en tant qu'association, mais ça ne suffit pas. Du coup, on interagit dans un réseau beaucoup plus vaste et je me considère personnellement comme une tisseuse de liens qui met les gens ensemble. Et avec mes 17 ans d'expérience sur place, j'ai pu vraiment avoir un carnet d'adresses assez complet.
C'était les étudiantes de Montpellier et de Heidelberg qui ont, eux, l'idée de cette coopération culturelle. Même si la fin de la Deuxième Guerre mondiale était encore frais dans l'esprit des gens.
Les jours ne se ressemblent pas. Bon, il y a le volet bureau qui prend quand même une bonne partie. Je suis contente d'être en France parce que les horaires me conviennent bien. Que je n'ai pas commencé très 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 tôt, comme c'est parfois le cas en Allemagne. Mais bon, je pense que c'est la culture aussi. Donc, je commence à 9h passées parce que bon, je dois déposer les enfants à l'école. J'arrive au bureau la journée démarre et comme on peut s'imaginer, tout ce qui est événement culturel, ça se passe plutôt en soirée.
D'accord.
Du coup, on a plusieurs fois par semaine des événements. En fait, c'est vrai, je pense, mon parcours universitaire a fait que j'adore faire de la communication et des relations publiques. C'est ce que je maîtrise le mieux. Du coup, je m'occupe de toute la communication sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, parce que j'ai compris en fait que c'est primordial. On peut faire les plus chouettes événements, mais si on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus, il n'y aura personne qui va venir.
Comment se fait l'échange entre les deux maisons? Comment je peux imaginer cet échange?
Ah oui, avec la maison de Montpellier. En fait, ma collègue Carla, on s'appelle tout le temps. Là, un exemple très concret, parce que c'est toujours mieux d'être concret. Cette semaine, j'ai la coordinatrice internationale du lycée international de Montpellier. Elle a 3 jeunes lycéens qui veulent urgemment partir faire un stage en entreprise à Heidelberg. Donc, on fait un truc dernière minute. Les services économiques de la ville nous trouvent les stages et la maison de Montpellier va trouver l'hébergement, va les prendre en charge, va les accompagner.
Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signent le traité d'Élysée. Il est le début des relations franco-allemandes et nourrit une coopération dans beaucoup de domaines, comme l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse et l'Université franco-allemande. Les décisions politiques, économiques et sociales touchent le pays voisin car il est devenu le sujet de la politique intérieure. Dans le traité, il est écrit:
les deux gouvernements reconnaissent l'importance essentielle que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l'autre. Ils s'efforceront à cette fin de prendre des mesures concrètes en vue d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande.
Pour revenir un petit peu sur le travail franco-allemand, est-ce que tu penses qu'il y a un aspect où tu voudrais bien améliorer?
Franchement, c'est l'apprentissage de l'allemand. Ça me rend malade ce qui se passe en ce moment. J'ai signé la pétition de l'Association pour le développement de l'allemand en France, ADEAF, à destination du président de la République. J'invite tout le monde à faire pareil parce que on le sait, le 22 janvier 2023, on fêtera les 60 ans du traité de l'Élysée. C'est clairement marqué depuis 1963 que l'apprentissage de la langue du partenaire, on doit lui accorder une priorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, ça a été rappelé, c'est écrit noir sur blanc, mais sur le terrain, ça ne s'applique pas. Donc, ça coince au niveau de l'éducation nationale et dans les académies parce que les chefs d'établissement doivent, avec leur dotation d'horaire, ils n'ont plus les moyens. Il y a des enseignants, ils sont épuisés, ils changent, ils bougent entre 2-3 établissements. Du coup, tous les avantages qu'on peut avoir en tant qu'élève avec l'allemand parce que votre prof va organiser le voyage en Allemagne qui sera subventionné par l'UFAJ. Tout ça, ils n'en ont même plus le temps ni l'envie parce qu'ils sont épuisés. Il y a 72% des postes au CAPES. Hein, le CAPES, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le concours d'entrée pour devenir professeur d'allemand. Les postes ne sont pas pourvus. C'est catastrophique et c'est un cercle vicieux parce que moins il y a d'élèves qui apprennent l'allemand, moins il y a des vocations qui vont se créer pour devenir professeur d'allemand, mais ça manque d'une stratégie nationale pour redonner une place, une place vivable à l'allemand. Parce que mes collègues de l'économie, ils vont donner des chiffres mirobolants de la perte. C'est des milliards d'euros que la France perd en termes de coopération économique parce que les gens ne parlent plus l'allemand. Bon, c'est connu, hein, si vous avez de l'allemand sur votre CV, on vous prend, vous n'aurez pas de problème pour trouver un travail. Et c'est ça vraiment, c'est mon moteur un peu. C'est vraiment la question qui me poursuit.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen, pas de paix, pas de rancœur.
Est-ce que tu trouves que l'amitié franco-allemande, qu'elle est en danger?
Ah, c'est la grande question, est-ce que le moteur coince, est-ce que ça coince? Je pense pas. Nous allons démontrer que ce n'est pas le cas, parce que le couple franco-allemand, il n'est pas que politique, c'est pas parce qu'on a reporté le conseil des ministres franco-allemands qu'on est en fin de vie, ou qu'on va divorcer, ou je ne sais quoi. Non, c'est la société civile aussi qui porte tout cela. Il n'y a pas de problème, franchement. Et encore, je crois, là, il y a quelques jours, il y a eu la première assemblée parlementaire avec 50 députés français qui sont venus à Berlin. Donc ça, c'est très, très important. Par contre, ce qui m'inquiète, et ça, je ne voudrais pas le cacher, c'est en termes de budget, j'avais dit que le ministère des Affaires étrangères, il est responsable de tous les Goethe-instituts du monde entier. Il y en a plus de 150, hein. Je ne connais pas le chiffre exact, mais entre 150 et 200 dans le monde entier. Et ça fait le tour de la presse cet été qu'ils ont coupé drastiquement le budget global pour le travail du Goethe, du DAAD, qui est l'Office allemand d'échange universitaire, pour la Fondation Alexander von Humboldt. Et du coup, ça nous a, sur le coup, ça a failli nous affecter. Il y a par exemple, on a les collègues du Goethe Institut à Toulouse, nos voisins et amis. Ils ont dû fermer leur département linguistique pour cause de non-rentabilité, ce dont je doute un peu. Parce que bon, quand on fait des cours d'allemand, il y a déjà une entrée d'argent. C'est pas quelque chose qui est hautement subventionné. Et c'est fort dommage, surtout pour la ville d'Airbus et avec tout son écosystème franco-allemand autour. Mais du coup, ça vient plutôt du côté allemand qu'on a eu des gros soucis parce que le ministère français n'a pas fait la même chose pour l'Institut français. Bon, là, depuis une semaine, on sait qu'il y a eu une séance au Bundestag à Berlin, où ils ont revu les budgets à la hausse. Et ils ont réalimenté le budget du Goethe aussi. Mais qu'est-ce que ça va concrètement vouloir dire pour notre travail? Je ne le sais pas. Ce n'est pas des très, très, très grandes sommes. Hein. On ne parle pas de millions pour nous. C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Mais ça fait quand même une différence. Et c'est risqué dans un contexte politique tendu. Par exemple, nous, en Occitanie, je parle de toute l'Occitanie, ça comprend Toulouse, sur 49 sièges à l'Assemblée nationale, il y a 16 sièges qui sont occupés par le Rassemblement national. C'est un tiers, on est d'accord, c'est un tiers. Et du coup, l'ouverture d'esprit, l'idée de l'Europe, et de l'amitié des peuples, très très important que ça reste implanté dans les campagnes aussi. La politique culturelle ou la diplomatie culturelle, c'est quelque chose qui marche dans le long terme. c'est pas tout de suite, c'est pas parce que vous avez fait une, que vous avez invité une fois un auteur allemand que tout le monde va dire ah oui, je change ma vision du monde. Non, c'est à travers des années qu'on change le regard, qu'on se dit ah oui, je suis venue plusieurs fois, j'ai peut-être participer à tel programme. Ça a pris une dimension politique, en fait, tout ce qu'on fait. C'est très important.
Et alors, est-ce que l'amitié franco-allemande est-elle en danger?
Non, parce que l'amitié franco-allemande est plus que le traité. Il s'agit des relations amicales. Les instituts comme celui du jumelage Heidelberg-Montpellier contribuent pour l'échange et l'intérêt.
Und trotzdem hat die Politik einen Einfluss auf die finanzielle Situation der Institute und damit indirekt auf die Existenz der Sprachinstitute. Am Ende sind wir es, Einzelpersonen, die für das Bestehen von Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern verantwortlich sind.
Zum Schluss möchte ich auch nochmal zum Ausdruck bringen, wie schön das war im Juni, das Alumni-Seminar EMK bei mir im Heidelberg-Haus hosten zu dürfen. Da habe ich mich wirklich wie so die Mutter Beimer aus der Hinterstraße gefühlt. Also wirklich wie so eine Mutti, die wohlwollend schaut, okay, was, also wirklich nach, wann bin ich fertig geworden? Ja, 17 Jahre später einfach. Was aktuell läuft, mich zu freuen, dass es das Programm immer noch gibt, was die jungen Alumni da machen. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich emotional verstanden habe, was ein Alumni-Verein ist.
Das hier war die erste Folge über die deutsch-französische Freundschaft, ihre Auswirkungen und die Entstehung. In der nächsten Folge wird euch Alina mehr über den Élysée-Vertrag erzählen. Hast du vielleicht auch eine Idee für die nächste Podcast-Folge? Écris-nous sur Instagram ou essaye de faire un épisode de podcast toi-même. Über unseren Slack-Channel kannst du dem EMCast beitreten. Wir freuen uns über alle, die Lust haben, uns zu unterstützen. Bis hoffentlich bald! Schön, dass du heute dabei warst.
Tu vas être sûr de ne rater aucun épisode? Abonne-toi sur Spotify.
Wir bedanken uns für die Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule.
Das hier war ein Podcast engagierter Mitglieder des EMK-Alumni-Vereins.
À la prochaine!